Billy. On va s'intéresser là maintenant à une libération qui choque. C'est un violeur, il aurait dû faire 30 ans de prison, il en a fait 8 et il va être libéré, retourné dans la ville où est sa victime. En fait, c'est même aujourd'hui celui que l'on présente comme le violeur de Karine va être libéré et retourné habiter à Rennes. C'est la ville dans laquelle vit toujours sa victime. En fait, il avait pris 30 ans de réclusion criminelle et il n'aura fait que 8 ans.
Oui, et sa victime, qui s'appelle Karine Brunet-Jambu, a décidé de médiatiser cette histoire, son affaire. Rappelons donc qu'il avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ce qui n'est pas rien. Sa peine a été réduite à 8 ans. Le parquet de Caen rappelle quand même qu'il reste soumis à une surveillance stricte, mais enfin,
Libre. Bien sûr.
Une décision qui est jugée incompréhensible pour Karine, parce que le pire pour elle, c'est qu'il va s'installer donc dans le quartier où elle travaille, à Rennes. Il a violé des enfants toute sa vie et on le libère. Il vient habiter à Rennes et en fait, moi aujourd'hui, c'est moi qui vais être en prison, qui vais devoir réfléchir si je peux sortir ou pas par crainte de le rencontrer. Il a été condamné, alors il faut expliquer son parcours criminel, il a été condamné en 2007 une première fois à 18 ans de prison pour d'autres viols commis sur sa propre fille. Et comme il y a en France confusion des peines, contrairement aux États-Unis, on additionne, à un moment donné, ça réduit la peine. Et ce qu'elle dit, elle, la confusion des peines ne devrait pas profiter aux gros criminels, c'est son expression. Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'effectivement, il faudrait peut-être revoir cette histoire de confusion des peines, et puis derrière, quand on libère quelqu'un, et on ne pourrait pas faire en sorte que la victime ne croise pas chaque matin son bourreau.
Lui, cet homme-là, il était hébergé chez les parents de Karine et il l'a violée 300 fois.
Voilà, c'est la chose qu'il faut préciser.
Entre 2002 et 2005.
Donc c'est encore un pédocriminel qui a violé cette Karine 300 fois.
Aujourd'hui, il a 74 ans.
Ouais, mais ça reste un pédocriminel. On peut rappeler le cas de Yanis en Haute-Savoie qui s'est suicidé en mars 2025 parce que son agresseur est sorti pareil de prison et est retourné s'installer à quelques encablures de la maison familiale. Et c'est le père de Yanis qui l'a découvert en le croisant comme ça, en l'observant dans la rue. Donc après, on s'étonne que les victimes ait l'impression de ne pas être protégé par l'État. On s'étonne aussi qu'il puisse y avoir des mouvements complotistes autour de la pédocriminalité aussi. Parce que moi, ce que je ne comprends pas en France, même si on pourra toujours nous sortir des arguties judiciaires, c'est que on ne prend pas en compte la psychologie de la victime, déjà que la parole, elle est assez oppressée. Quand une personne se fait violer à plus forte raison par un adulte, déjà, un, c'est réaliser ce qui s'est passé. Te réapproprier ton corps. Ensuite, le deuxième checkpoint, c'est avoir le courage de parler en espérant tomber sur quelqu'un qui va te dire « je te crois ». Troisième checkpoint, c'est aller porter plainte à la police en espérant tomber sur un bon policier ou une bonne policière, ce qui arrive dans la majorité des cas, bien entendu. Et ensuite vient l'après, le côté judiciaire, où là, souvent, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on veut de cette Karine, qu'elle se suicide, en fait ? Au bout d'un moment, autant l'annoncer. On veut qu'elle se suicide. Mais comment elle va aller travailler maintenant? Lui, il va vivre sa vie normalement. C'est elle qui va avoir la boule au ventre en allant travailler. Tout marche à l'envers. Et je suis désolé, il y a un problème avec le traitement de la pédocriminalité. Une personne qui a été violée 300 fois. 300 fois. C'est-à-dire que elle, sa vie, elle est détruite. Même si elle réussit à travailler, même si elle réussit à se marier, à avoir un compagnon, chose que je peux lui citer, elle ne s'en remettra jamais.
Elle a un enfant.
Oui, mais on ne s'en remet jamais. On est marqué à vie quand c'est comme ça.
Ça la replonge surtout dans ce qu'elle a vécu.
Et surtout, à la limite, puisque en France, on ne veut pas mettre le fichier public parce qu'on a peur que des gens se fassent justice eux-mêmes. Est-ce qu'au moins, on peut mettre au courant les victimes? Au moins ça. Est-ce qu'au moins on peut mettre au courant les maires, au moins ça, c'est le minimum.
La confusion des peines, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a une pétition en ligne. La tante mère adoptive de Karine Jambou a lancé une pétition, je l'ai signée, j'invite tout le monde à la signer. C'est une pétition pour que l'État se saisisse de la question de cette confusion des peines. Il faut qu'on fasse, excusez-moi, comme aux États-Unis, on additionne les peines. Ce qui permet à certains, oui, d'avoir 100 ans de prison. Oh, c'est pas humaniste, oh, c'est pas beau, oh, les droits de l'homme, oh, la Cour européenne des droits de l'homme. Eh ben moi, excusez-moi, pour les pédocriminels, pour ceux qui agressent des personnes âgées dans les EHPAD, pour ceux qui tirent à la Kalachnikov, etc., je m'en contrefous de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut qu'il y ait une non-confusion des
jamais sorti de prison. Parce que
je veux quand même préciser que Karine Jambou est exemplaire dans la mesure où elle et sa tante ont réussi à faire condamner l'État 5 fois pour déni de justice, pour faute lourde, parce que cet enfant, dès le premier jour, sa tante, elle a signalé, dès le premier jour de sa naissance, sa tante a signalé qu'elle était dans un milieu familial toxique. Sa mère avait commis un infanticide. Elle n'était pas, sa mère ne s'occupait pas d'elle, sa mère ne lui donnait pas le biberon, c'est une enfant qui errait. La tante s'est occupée d'elle tant qu'elle a pu. Lorsque la tante portait plainte, faisait des signalements, surtout quand à partir de l'âge de 4-5 ans, les viols ont commencé, puisque ce monsieur Brody, il faut dire son nom, hein, monsieur Brody, puisqu'il est dans la nature, donc on a le droit de dire son nom, il a été hébergé dans cette famille dysfonctionnante, toxique et dangereuse et criminelle. Il violait cette petite fille. La tante a alerté la police, a alerté la justice. Vous savez comment on a appelé, comment les juges appelaient la tante, la sorcière. Ah voilà, il y a la sorcière qui arrive. C'est-à-dire que c'est elle qui dénonçait les viols de sa nièce, qui est devenue ensuite sa fille adoptive. C'est elle qui a été condamnée par la justice. Donc non seulement l'État devrait lui demander pardon, la justice des mineurs devrait lui demander pardon, mais en plus le juge lui écrit une lettre. Nous avons l'honneur de vous informer que monsieur Brody est relâché. Et alors on le remet à Rennes parce qu'il faut pas qu'il soit isolé. Il va aller vivre chez son frère parce qu'il faut pas qu'il soit trop perdu, parce que vous comprenez, sinon il pourrait être en errance. Non mais on s'en fout de qui.
En tout cas, la pétition fonctionne bien.
Et est-ce que ce monsieur a une castration chimique?
Alors il est soumis à une obligation de soins.
Castration chimique, je demande.
Il a un bracelet électronique, interdiction de fréquenter des mineurs, paraître dans des lieux fréquentés par des mineurs et obligation de se présenter, bien sûr.
C'est simplement cette pétition, c'est quasiment 71 000 personnes qui ont signé la pétition.
Signature vérifiée.
Il y a une double facilité judiciaire, effectivement, qu'on peut juger condamnable. C'est la confusion des peines d'une part, et d'autre part, que la prise en considération de ce problème de libération avec le retour à Rennes, elle est prise en considération post-jugement, alors qu'elle devrait être au cœur de la décision judiciaire. Mais en fait, si on va aux causes et qu'on recherche une solution, il va falloir taper dans la butte, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore s'offrir en France? Parce que l'appareil judiciaire, évidemment, on peut critiquer la justice, tous les maillons de la justice, depuis celui qui prend la décision jusqu'à ceux qui contribuent au dossier. Mais il y a quand même une surcharge de l'appareil judiciaire, de fait. Quand on voit des dossiers judiciaires, c'est tellement volumineux, tellement complexe que les juges ne peuvent pas être des surhommes au-delà de leur travail colossal. Et donc, il y a une surcharge de l'appareil judiciaire. Est-ce qu'on peut encore s'offrir en France les 3 degrés de juridiction? Au-delà d'augmenter par ailleurs les moyens de la justice, pense que non.
Emmanuel.
Je pense que non. Il faut revenir à une justice au risque d'être plus expéditif, qui devienne efficace.
Emmanuel, quand t'as un juge ou une juge qui estime qu'un mec qui a violé une enfant 300 fois, sachant qu'il a violé d'autres enfants, il faut faire attention à sa psychologie sociale. Il faut qu'il se réinsère. Donc qu'il aille chez son frère. Il faut qu'il garde un lien parce qu'on croit en sa réinsertion. Et la victime, on s'en fout. La victime, on s'en fout toujours dans ce pays. Au bout d'un moment, qu'est-ce que l'on veut, bordel? On veut que cette personne se suicide.
Oui, mais c'est parce que
Moi, je le redis, alerte Arcom ou pas, c'est peine de mort pour les pédos.
C'est interdit en France.
Ah oui.
C'est interdit en France,
mais franchement. Et moi, je le redis encore. Les politiques qui nous parlent d'immigration, qui nous parlent de... Oui, ils nous parlent de tout. On ne parle jamais de comment sont traités les enfants dans un pays où t'as un enfant violenté sexuellement toutes les 3 minutes. À chaque fois, ce sont les mêmes coups de gueule que l'on pousse avec Laura, avec Barbara. On se répète, mais on continuera de parler. Parce que c'est plus possible.
Le traitement judiciaire des violences intrafamiliales et des violences sexuelles sur mineurs pose de graves problèmes. Moi, je l'entends très bien ce que tu dis, Emmanuel. La justice a des problèmes de moyens, etc. Mais dans l'affaire Karine Jambou, les dysfonctionnements, c'est pas juste un problème de moyens. C'est qu'on n'a pas cru l'attente. On n'a pas cru cet enfant. On a laissé une enfant entre les mains d'une mère infanticide qui hébergeait un taré pédocriminel. Excusez-moi, là, le problème, c'est pas on manque de moyens, on manque de juges mineurs.
C'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation de l'appareil judiciaire avec une surcharge qui fait il y a des erreurs qui se
passent. Mais c'est ça qui fait le laxisme.
Faisons-la,
même
la commission d'enquête. J'entends des commissions d'enquête. Là, on te fait des commissions d'enquête pour un oui, pour un non, pour un pé de mouche. Là, oui, faisons-la la vraie commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice des mineurs. Et aussi, étalons aussi plus loin, parce que je le dis, et ça va être des scandales qui sortiront un jour ou l'autre, ça a déjà été évoqué, les problèmes dans les EHPAD de maltraitance sur les personnes âgées.
Exactement.
y compris des agressions sexuelles. Non, il y a des agressions sexuels sur des personnes vulnérables en EHPAD.
On va pas faire tous les cas d'agression sexuelle.
Eh bien si, parce que c'est les plus fragiles. Et je vous l'ai déjà dit ici, les agressions sur les enfants, les agressions sur les personnes âgées et les agressions sexuelles sur les animaux, ça c'est les trois aspects d'une même violence. Et si
sur
on
les femmes aussi,
ça,
sur les femmes aussi.
La zoocriminalité, bien sûr. Et ça, c'est. Et je vous l'avais dit, François-Xavier Bellamy s'était intéressé à ce sujet, ainsi qu'un le sénateur Bazin. Ils avaient vu les corrélations entre des familles où il y avait des violences intrafamiliales extrêmement fortes, avec des violences sexuelles sur les enfants et en même temps des violences sexuelles sur les animaux de la famille. Non, mais je vous le dis.
Oui, d'accord.
C'est un vrai sujet.
C'est
et Abel et moi et Laura, on a raison de le remettre sur la table à chaque fois.